Bien, je suis très, très sensible à cette invitation de Jean-Marie Caillé et des mots amicaux du doyen Morlat et de la présence du professeur Bello, qui sont des amis. Et quand j'ai reçu cette invitation il y a quelques mois, je me suis dit, au fond, c'est un challenge. Mais je me suis rendu compte dans le train en venant que il y avait quelque chose de peut-être un peu ridicule de pérorer sur la mort. Parce que c'est probablement, c'est même certainement un des domaines que l'on ne peut aborder que de l'extérieur et que chacun abordera de l'intérieur, dans l'inconnaissable, dans l'indicible. Et que toute parole sur la mort, fût-elle la médecine, la négation de la mort, s'apparente peut-être à une certaine vanité. Dans tous les sens du terme. La question que je me suis toujours posée, mais je n'ai pas de réponse, c'était pourquoi un être humain tente d'être médecin? Alors, il y a toujours la tradition, l'envie de soigner son prochain, toutes les paroles incantatoires, mais je me demande si dans l'inconscient, collectif des étudiants en médecine, il n'y a pas, à l'occasion de ce qu'on appelle faire médecine, peut-être vouloir apprivoiser l'approche de la mort. Et peut-être c'est d'en avoir plus peur que chacun. Peut-être que les médecins, je n'en sais rien, mais peut-être que les médecins sont plus terrifiés par la mort que n'importe quel être humain. Et que c'est peut-être dans cette volonté de mettre à distance la mort que des étudiants en médecine vont passer 10 ans. Alors, c'est bien sûr que si on interroge des étudiants en médecine dans un micro-trottoir, jamais ils ne vous répondront, bien sûr qu'ils ont peur de la mort. Mais je me pose la question, je n'ai pas de réponse, mais je me dis que, ayant côtoyé, comme la plupart d'entre vous, les plus jeunes, des étudiants en médecine, il y a quelque chose d'un non-dit qui me paraît important. Et je me dis toujours que le mot médicus, qui, comme vous le savez, est un mot, au fond, de médiateur entre la maladie et le malade, est-ce que le mot médicus n'est pas une médiation entre la mort et soi? Alors, je n'ai pas de réponse, mais je continue de m'interroger sans me livrer personnellement. On ne peut pas faire cette espèce d'auto-analyse. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai voulu être médecin et que c'est toujours très difficile de reconstituer a posteriori quelque chose qui est justement de cette conscience de la mort de l'autre et donc de sa propre mort. Et donc je voudrais tenter quelques réflexions, mais je voudrais pérorer pendant quelques 40 minutes, si vous voulez, pour que éventuellement nous ayons quelques échanges, si vous le souhaitez. Je vous propose d'aborder en plusieurs thèmes. D'abord la mort évacuée, puis la mort repoussée, ce que c'est que le mourant, la mort anticipée, la mort certifiée par son absence, la mort cérébrale, la mort médicalisée, la mort du médecin. Pour conclure, comme ça, quelques réflexions dont je voudrais simplement dire qu'elles ne sont pas de l'ordre de la littérature, elles sont de l'ordre de l'être humain confronté font à la fin de sa vie professionnelle, après avoir vu, comme certains d'entre vous, des milliers de malades, son rapport entre la mort des autres et sa propre mort. Alors d'abord, la mort évacuée, bon, il y a tous les lieux communs, j'imagine que sont partout, qu'on a tout entendu, c'est-à-dire que notre humanité, au moins occidentale, mais je suis frappé de voir que c'est en train de changer, même en Asie ou en Afrique. C'est-à-dire que notre humanité contemporaine du XXIe siècle est de moins en moins familière avec la mort, qu'elle croit pouvoir sans cesse ajourner dans la mort des autres, dans la mort à la télévision, dans la mort collective, dans la mort des attentats. C'est la mort des autres qui angoisse, mais qui fait tout pour ne pas introduire la mort au cœur de soi. Et peut-être, je me pose là encore des questions, ce n'est pas des réponses, mais des questions, est-ce que notre angoisse existentielle, sans cesse reprise par les psychiatres, par tous les journaux, sur le fait que nous sommes une humanité de plus en plus angoissée, est-ce qu'elle n'est pas liée à cette sorte de morsure que le néant ferait à notre conscience qui ne serait plus confrontée à la mort ? C'est-à-dire comme si, de façon subreptice, cette évacuation crée paradoxalement de l'angoisse. Je n'ai pas de réponse là encore, mais je me pose des questions. Alors, la médecine et la négation de la mort, dans cette réflexion sur la mort évacuée, je suis très frappé, je ne sais pas comment c'est le cas, si c'est le cas à Bordeaux, en tout cas à Paris, la mort est absente totalement du cursus universitaire. Mais absente, pas un pour mille, zéro pour mille. Il n'y a pas un cours, il n'y a pas une réflexion. D'ailleurs, on le voit très bien, la mort n'intéresse pas les étudiants en médecine. Ce n'est pas quelques étudiants qui sont là. Si on parle de la mort, cela fait fuir. D'ailleurs, peut-être cela nous rapproche de cette volonté d'évacuer la mort par les jeunes médecins. Il n'y a plus donc d'autopsie. Depuis quand j'étais jeune externe ou interne, ça me paraissait évident que les malades dont je n'avais pas compris la fin de vie, ou même dont on avait besoin de mieux comprendre, l'autopsie faisait partie du rituel de la médecine et était une grande leçon d'humilité, parce que je ne me souviens pas de semaines où on ne découvrait pas de pathologie passée totalement inaperçue. Alors on dit, mais actuellement, avec l'imagerie, avec la RMN, avec le scanner, vous ne passez plus à côté. Je crois que c'est complètement faux. Et je crois que la disparition de l'autopsie est une tragédie scientifique. Et qu'on est absolument étonné de voir que, malgré tous les efforts que là, personnellement, pas en tant que médecin, en tant que président du comité consultatif national d'éthique, j'ai tenté auprès du pouvoir politique, de remettre l'autopsie, non pas au centre de l'hôpital, mais comme une activité respectueuse des personnes. Et le politique est terrifié par la notion même de réintroduction de l'autopsie, et que les obstacles s'accumulant, ce qui fait que la mort n'existe plus à l'hôpital, malgré sa présence. Je me souviens, puisque j'étais le témoin direct d'un directeur d'hôpital, de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, au moment avant qu'il ouvre, il m'a dit, dans cet hôpital, il n'y aura pas de mort. Donc, on aboutit. Alors, cette phrase qui peut vous faire sourire traduit en même temps l'ambition, je dirais pas démesurée, mais l'ambition confinant à l'absurde d'un directeur d'hôpital qui considère qu'un hôpital où les gens meurent n'est pas un hôpital moderne. C'est un hôpital dont la technologie est insuffisante pour protéger de la maladie de la mort. Et je suis frappé aussi de voir que l'étudiant en médecine pourra terminer ses études sans avoir jamais vu une personne morte. Jamais. Puisque il n'y a plus dans les hôpitaux ce qui était présent il y a encore 20 ans, c'est-à-dire les brancards recouverts d'un tissu imperméable et dont on savait très très bien qu'ils transportaient une personne morte, et on voyait les gens regarder avec une sorte de complicité et en même temps de fraternité, celui qui partait vers la morgue ou l'amphithéâtre. Je ne sais pas où il y a eu cet évanouissement, mais les infirmières, les soignants, les aides-soignants s'arrangent toujours pour que ça passe dans un ascenseur et que personne ne soit effrayé par le passage de ce corps mort, fût-il complètement enseveli sous un anonymat. Donc il y a eu un évanouissement de la mort, et à partir du moment où, contrairement à ce qu'on a pu souhaiter, que lorsqu'il y a eu un mort dans une chambre, cette chambre ne soit pas immédiatement réoccupée par un malade qui arrive des urgences ou qui arrive d'une consultation, comme respect de celui qui va mourir, il est remplacé dans la demi-heure ou dans l'heure, sous prétexte qu'il faut que l'hôpital tourne et qu'on n'est pas là pour perdre son temps avec ceux qui sont morts. Il faut que ceux qui vont mourir éventuellement ne soient pas confrontés aux enfants. Je suis toujours très frappé de voir comment on empêche les vieilles personnes, qui ont des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, de les approcher sous prétexte de contagion, interdit aux moins de 15 ans, et on est frappé. Je parle de ce que je connais à Paris, c'est peut-être tout à fait différent ici, et de voir comment l'enfant doit être protégé de la vision, pourtant tellement traditionnelle, tellement essentielle, de la mort de ceux qui le précèdent. Donc la mort est un tabou, et l'hôpital n'est pas un lieu où on parle de la mort, et pourtant, comme vous le savez, c'est répété 100 fois, la mort. L'hôpital est un lieu où on meurt. 70%, 180%. Donc c'est un hôpital où on meurt, l'hôpital est un lieu où on meurt, et pourtant c'est un lieu où la mort est escamotée. Le deuxième point, que j'appellerais donc la mort repoussée, la mort interdite. Le premier point, c'était donc la mort évacuée du regard des vivants. La mort repoussée, la mort interdite. J'ai toujours été frappé de voir que lorsqu'une personne jeune, ou dans la maturité ou âgée, arrive à l'hôpital, elle est perfusée avant même d'avoir révélé son nom, sa carte d'identité ou son âge. Elle est branchée. Elle est branchée, au fond, elle est dans le milieu hospitalier d'emblée, et on ne meurt pas sans perfusion. Mourir sans perfusion crée une sorte d'angoisse, comme s'il y avait un abandon de la personne. Il faut qu'il y ait des fils, il faut qu'il y ait des appareils. Alors plus ça crépite, plus les vivants se sentent investis d'une sorte de relation affective et efficace vis-à-vis de celui qui va mourir. Je suis frappé de voir que tous les discours sur l'acharnement thérapeutique, sur l'obstination déraisonnable, font comme si c'était très simple. Et tous les médecins ici, et j'imagine que le doyen Morla, Bello, ont été confrontés à des situations où ils ne savent pas où est l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'il faut que je continue à sauver cette pneumocystose dans les années 95, et puis ils le font, et puis 3 mois après, la personne vous est tellement reconnaissante, alors que cela pouvait s'apparenter à de l'acharnement thérapeutique. Donc, autrement dit, le discours bien pensant, en disant « Ah, pas d'acharnement thérapeutique, pas d'obstination déraisonnable », comme si on était parfaitement quitte de cette réflexion à pouvoir prononcer ces mots, me font penser que non seulement c'est difficile, mais que paradoxalement, l'acharnement thérapeutique fait partie de notre culture. Parce que la notion de maladie incurable, je dirais, est en train de disparaître. Même un cancer du pancréas, dont on sait le pronostic généralement fatal à 24 semaines, fait l'objet d'un dernier recours en chimiothérapie. Et donc il y a une sorte de transfert de l'incurabilité sur un projet thérapeutique futile, futile au sens américain du terme, c'est-à-dire totalement sans aucune efficacité. Je suis frappé de voir, par exemple, en hématologie, dans le service où je suis actuellement consultant, il y a une unité d'hématologie remarquable, enfin, qui travaille très très bien, mais qui a pour spécialité les myélodysplasies des sujets âgés, c'est-à-dire les modifications, disons, dysplasiques, les modifications cellulaires des cellules du sang, et qu'il n'y a pas d'âge pour ne pas leur proposer des thérapeutiques qui m'angoissent par leur caractère générateur de souffrance, avec des bénéfices qui me paraissent tellement réduits parce que à 80 ans, 85 ans, gagner 2 mois à travers des souffrances, j'enfonce des portes ouvertes, mais je trouve que la médecine ne s'interroge pas sur éventuellement les souffrances qu'elle peut susciter en étant sans cesse dans une situation d'activisme, en repoussant sans cesse les limites. Il y a toujours une nouvelle solution. Et je vois très très bien comment les jeunes internes, les jeunes chefs de clinique, face à un malade qui leur a été confié à l'hôpital par une famille ou par un médecin, ne supportent pas de ne pas agir, quel que soit le pronostic toujours défavorable. Il faut, au fond, manifester la participation de la médecine, il faut que la médecine ne reste pas muette. Alors, il est vrai que ce n'est pas la médecine seulement, et que la société, peut-être d'une naïveté entretenue par les discours de la télévision, de la radio, des journaux, dit « mais c'est pas possible qu'il n'y ait rien à faire devant ce cancer du pancréas ou devant cette métastase cérébrale d'un cancer bronchique à petites cellules, c'est pas possible ». Et il y a, au fond, une sorte de réassurance sur le fait que il y a toujours un protocole. Je suis frappé de voir, par exemple, comment cette douloureuse affaire qui continue d'ailleurs à Paris d'agiter certains hôpitaux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire de Lépine, ou qui est une femme oncologue qui traite à l'hôpital Avicenne des enfants considérés comme au-delà des possibilités de la médecine. Et elle dit « venez à moi ». Et qu'est-ce qu'il y a de plus porteur d'espérance pour des parents dont l'enfant de 3 ans, 6 ans a un ostéosarcome que Gustave Roussy, que Curie ont considéré comme au-delà des limites, et de dire « venez ». J'ai un protocole thérapeutique ou j'ai une proposition thérapeutique à faire et qui néglige totalement ce que peut être la souffrance et le calvaire de cet enfant qui va être soumis à une chimiothérapie dont l'intérêt est généralement le plus modeste. Et je me pose la question de savoir si en luttant de façon excessive contre, non pas le discernement, comme... Est-ce que la médecine n'est pas porteur de nouvelles souffrances au nom de son efficacité affichée? Et alors, en miroir, de plus en plus, moi je vois très bien la mort vécue comme un échec thérapeutique. La mort, ce n'est pas la fin de la vie, c'est il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, dans le sens commun, moi je pense que je suis comme vous, quand quelqu'un meurt, connu ou pas connu, dans le journal, un ami lointain ou même proche, la première question, quel que soit son âge, mais de quoi est-il mort? C'est-à-dire qu'il faut bien que le vivant se rassure par une causalité très précise qui n'est pas celle qui me concerne. Alors, l'accident, bon, ça je suis protégé, la noyade, je suis protégé, le tsunami, je suis protégé, l'accident vasculaire cérébral, mais est-ce qu'il avait des facteurs de prédisposition? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inquiétude sur le fait que la mort n'est plus l'événement final de la vie. La mort est rattachée à une pathologie. D'ailleurs, quand on doit remplir le document de décès, l'épidémiologie est extraordinairement précise, on ne peut pas dire mort par arrêt cardiaque, ça n'a pas de sens. Il faut être mort d'un accident vasculaire cérébral, d'un cancer du poumon, etc. Donc il n'y a plus de mort naturelle. Et la mort, et moi je le vois chez les jeunes étudiants, et même chez ceux qui sont déjà dans la phase de la maturité, c'est que la mort devenant un événement médical, la mort introduit la culpabilité au cœur du soignant. Et que si la mort survient, combien d'entre nous ont été confrontés à des interrogations presque agressives? Mais c'est pas possible, il allait très très bien il y a 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la faute? Quelle est la nuisance technique qui a été introduite? Comme si la mort était un accident, comme une hémorragie, comme une gêne respiratoire. Et la question que je pose, c'est que comme la vieillesse est de plus en plus retardée, alors il y a l'allongement de la vie, mais on sait très bien que la vieillesse, on ne sait plus du tout où elle est. Comme on ne sait plus du tout où est l'adolescence. En passant, c'est que l'adolescence, elle commence à 10-11 ans, puisqu'il y a maintenant des lieux festifs qui étaient pour les adolescents de 16-17 ans où les enfants de 11 ans vont. Donc, et comme ça n'a pas grand-chose à voir avec la mort, mais Je suis frappé de voir que l'adolescence va de 11 à 30 ans et qu'entre 30 et 45 ans, c'est le moment où on travaille. Et puis après 45 ans, jusqu'à la fin de la vie, c'est la vie. Il n'y a plus... la vieillesse a disparu. Et que la vieillesse ayant disparu, la mort étant évacuée, la médecine est confrontée à un problème culturel qui est d'isoler le mourant, parce que le mourant chasse la présence de la mort. Le mourant, pardonnez-moi la trivialité de mes propos, mais c'est un objet médical d'attention au sens vrai du terme, mais il est mourant, c'est-à-dire qu'il a un statut de participe présent substantivé. Comme on parle du militant, de l'officiant, du fabricant, comme si le mourant était le seul à mourir. Un mourant comme si nous le chargions de nous délivrer de la finitude et de notre douleur d'exister. Au fond, le mourant porte seul l'affaire de la mort. Et je me pose la question, dans notre société où on passe nos temps à victimiser, en tout cas, non pas encenser les victimes, mais à leur donner un statut très, très particulier, est-ce que le mourant n'est pas une victime dont il faut s'approcher et non plus un sujet? Il n'appartient plus au vivant, c'est-à-dire notre condition habituelle, mais il n'est plus le sujet de notre condition mortelle et commune. Et que je reviens sans cesse à cette exclusion symbolique de la mort qui est mise à l'écart du collectif et que le mourant va focaliser sur lui-même, paradoxalement, cette exclusion du symbolique. Et que, est-ce que le statut victimaire du mourant, entre guillemets, ne rejoint-il pas les sacrifices dont parlait dans d'autres domaines René Girard? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois qu'on parle trop facilement du mourant comme... Une sorte de sujet qui nous délivre de l'angoisse d'exister. Et puisque les médecins l'ont catégorisé comme tel, comme mourant, c'est que moi je suis vivant. Et au moins je suis survivant pour un temps. Le temps de la mort est repoussé. Comme je vous le dis, je ne suis pas là pour donner des réponses, mais m'interroger sur le rapport de la médecine à la mort, en essayant d'évacuer, j'en dirais un petit mot, le débat sur l'euthanasie, qui me paraît être un débat réducteur, d'une faiblesse insondable, et plutôt de m'interroger sur le plan, non pas psychanalytique, parce que je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas philosophe, je suis comme vous, cher, quelqu'un qui s'interroge sur l'impensable dans ce rapport à la médecine, et dans cette négation de la mort où, au fond, la médecine se retrouve en situation de porte-à-faux devant une négation rituelle de la mort par la société et une négation scientifique de la mort. Et donc la médecine peut-être amplifie par cette double négation portée par l'extérieur cette attitude par rapport à la mort. Alors le troisième point, que j'appelle la mort anticipée. J'ai été auditionné par le Sénat il y a quelques jours sur la loi qui est en cours sur la fin de vie. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter au Sénat? Rien de plus que ce qu'ils ont pu entendre. Et traversé le Luxembourg, je me suis dit, au fond, peut-être la seule chose qui peut-être les faire réfléchir, les sénateurs, encore qu'ils m'ont dit que la loi de l'Assemblée nationale leur paraissait être une loi sénatoriale. Donc ça voulait dire qu'ils étaient assez fiers de cette loi, qui je pense est une loi intéressante. Mais qui me paraissait le point important, c'était le deuil anticipé. Notre société passe son temps à faire le deuil anticipé. Les familles, compte tenu des conditions, alors sociales, matérielles, ne supportent plus l'agonie. L'agonie, c'est quelque chose qui est une obscénité, qui est d'une inutilité, d'un coup. Ça fait peur à tout le monde, ça fait peur aux enfants, et c'est considéré comme une. Au fond, l'agonie revient. Faut revenir en boomerang cet affrontement de la mort. Donc il ne faut pas être embarrassé par celui qui va mourir trop longtemps. Et peut-être que ce deuil anticipé, qui est aussi celui des médecins, parce que là encore, les pressions économiques font que quand un diagnostic d'une maladie sur un scanner ou sur un examen biologique laisse peu d'espoir. La médecine n'a pas envie d'être longtemps confrontée à cette phase. Et je pense que le deuil anticipé a à voir quelque chose avec la revendication euthanasique d'une société européenne et même mondiale. Parce que si on... En dehors des cultures africaines ou asiatiques ou sud-américaines, en Europe, le débat n'existe quasiment pas. Je me souviens avoir été devant le Parlement belge, discuter. La majorité des Belges ne se posaient pas tellement de questions, je ne parle pas des Hollandais. Et la question, c'est que, au fond, le paravent culturel de l'exclusion de la mort facilite le discours sur l'euthanasie. Parce qu'il faut que la mort soit propre, il ne faut pas qu'elle dure. Et on demande, quelquefois, à la médecine, à mon avis l'impossible, on lui demande, mais est-ce que vous trouvez que cette personne est dans un état digne ? On demande à la médecine de faire un diagnostic de dignité. Ça me paraît le comble de l'absurde. La dignité, elle est dans le regard de celui qui justement, regarde celui qui va mourir. Et... je crois que ce sentiment que le mort ou celui qui va mourir gêne les vivants est de plus en plus fort. Il faut que ceux qui vont mourir et ceux qui meurent soient de plus en plus clandestins, qui ne gênent pas la rumeur du monde. Il y a quelques mois, dans un petit billet du Monde, je crois, ou la Croix, je ne sais plus. Une petite phrase comme ça, au détour d'une page qui m'avait beaucoup frappé, c'était quelqu'un qui avait été témoin dans le métro, en face de lui, une personne d'un âge moyen, 60, 70 ans, âgée, et qui a un malaise, qui s'effondre, et qui dit à son voisin d'en face, « Excusez-moi, je meurs. » Et je me suis dit qu'il intégrait par ces simples phrases le fait que sa mort était une provocation dans le métro où les gens sont en train de bouger. « Excusez-moi, je meurs. » Et je pense que c'est vrai, c'est pas une histoire racontée, enfin, c'était simplement par le témoin. Et c'est assez bouleversant de voir comment celui qui va mourir a le sentiment de gêner les vivants. La question de l'euthanasie, je veux bien en parler, mais je pense que ça peut parler pendant des heures, et on peut dire tellement de bêtises sur ce point, mais je pourrais vous dire un mot, si vous le souhaitez, sur l'avis que nous avions donné en 2000. Je pense que l'euthanasie, ce n'est pas un problème pour les malades, c'est un problème pour les médecins. Et c'est un problème qui est toujours très mal posé, et que la seule critique que j'aurais envie de faire de la loi actuelle, j'en parlais ce matin avec un de mes collègues à l'hôpital Cochin, c'est que c'est une loi pour les médecins réanimateurs. Et je trouve que c'est une excellente loi sur l'accompagnement, les soins palliatifs... pas d'acharnement, mais c'est une loi qui est destinée quand même à protéger les médecins réanimateurs d'une revendication familiale de ne pas avoir tout fait, et de pouvoir être protégés, de pouvoir arrêter les soins de faire ce qu'on peut appeler une euthanasie passive. Donc je ne pense pas que ce soit une loi qui soit capable de résoudre le problème, mais il vaut mieux qu'elle existe, parce que peut-être que les conflits entre les familles et les malades en réanimation ont été excessifs, mais je pense que la question centrale de la réanimation, c'est l'accès à la réanimation, parce que un service de réanimation, de plus en plus, a tendance à dire « je n'accepte pas quelqu'un dont les chances de mort sont considérables parce que, effectivement, mes statistiques vont devenir particulièrement lourdes. » Sur ce point, excusez-moi de me citer, mais j'avais fait quelques mots sur ce que j'appelais le coup de grâce, où j'essayais de... Bon, je ne sais plus très bien où elle est. Où j'essayais de dire que si le médecin confronté à la maladie qui entraînait, au fond, la mise à bas, c'est-à-dire, au fond, la première horizontalité de la maladie, donnait le coup de grâce... parce qu'il ne voulait pas faire souffrir trop longtemps ou voir souffrir trop longtemps. Et je pense que cette notion d'euthanasie assimilée au coup de grâce oblige peut-être à se positionner, mais à moins que vous le souhaitiez, je préférerais pas trop rentrer dans cette discussion qui, à elle seule, à mon avis, n'est pas forcément lié à la négation de la mort, encore que, peut-être que, en amont, cette revendication euthanasique par certains médecins s'apparente à l'obscénité de l'agonie, et que la médecine ne supporte pas très bien d'être confrontée à son impuissance. Le quatrième point, c'est la mort certifiée par son absence. J'étais frappé de voir que l'occasion d'un séjour récent en Égypte, où j'avais discuté sur la notion de greffe du foie dans des sociétés africaines et moyen-orientales, le concept de mort cérébrale pour les Égyptiens est une provocation. Et que pour les Européens, et les Français en particulier, c'est un dogme. Mort cérébrale, c'est une mort. Donc, la mort certifiée par son absence. C'est-à-dire qu'il paraît évident qu'on ne va pas revenir là-dessus, sur le plan légal. La mort cérébrale, c'est la mort. Et on considère qu'il n'y a même pas de débat. Alors qu'une plus grande partie de l'humanité extérieure considère que non seulement ce n'est pas la mort, mais au nom de quoi va-t-on intervenir pour... provoquer la mort totale, la mort réelle, chez quelqu'un qui est en suspicion de mort cérébrale. C'est un crime plus important que, à la limite, tuer quelqu'un en bonne santé, puisque c'est tuer le plus vulnérable. Et j'étais frappé de voir que, au fond, notre angélisme de penser que nous allions exporter notre capacité à greffer des sujets à partir de sujets en état de mort cérébrale, non seulement... était récusé d'emblée, mais nous faisait apparaître comme des barbares. Et que nos 5%, je viens de présider une conférence de transplantation sur le foie, il y a quelques semaines, et on a fait le point sur la transplantation en France. En France, le donneur vivant, c'est moins de 5%, et que le donneur vivant paraît une provocation, ce que je crois d'ailleurs, parce que le donneur vivant, on s'aperçoit qu'il est souvent... en situation de dépendance par rapport aux malades. Mais toujours est-il que le donneur vivant, en France, ça nous paraît un peu une intrusion dans le vivant. Alors qu'en Égypte, le donneur vivant, avec la sainte limite que ce sont les femmes qui donnent, et pas les hommes. Alors, c'est l'ambiguïté. Et que les donneurs vivent, les donneuses vivantes, c'est la sœur pour le frère, c'est la femme pour le mari, c'est rarement dans l'autre sens. Encore que ça puisse exister, il faut pas. Mais ça m'a frappé, et d'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est que, au fond, chacun considère que l'autre est dans une provocation. Donc, quand je disais que la mort certifiée par son absence pose un problème, et on n'en a pas terminé, par une réflexion sur ce qu'est la prise d'un rein, d'un foie, d'un cœur sur un sujet en état de mort cérébrale, avec d'ailleurs cette frontière entre la vie et la mort qui est peut-être en voie d'effacement, et qu'il n'est pas impossible que dans quelques années, d'autres techniques font qu'on arrivera à des techniques de biologie moléculaire, peut-être pour repousser la frontière entre la vie et la mort et la rendre peut-être encore plus confuse. Pour terminer, deux points sur la mort médicalisée. Vous allez dire que je viens de parler de la mort médicalisée pendant une demi-heure. Mais je voudrais simplement l'aborder sur deux plans. J'ai parlé effectivement de la réduction scientifique de la mort, c'est-à-dire que dans les staffs auxquels je participe et auxquels je pense vous participer, je suis toujours très frappé de voir que la mort est absente, totalement absente des staffs, disons, in progress, c'est-à-dire de ceux qui sont en train d'établir un projet pour un malade. Jamais, depuis 20 ans, dans le staff dont j'étais le coordonnateur pendant cette période, jamais, 15 jours après, un médecin revient en disant « Le malade dont nous avons discuté vendredi dernier, il est mort. » Et que pendant 20 secondes, il y ait un silence et que les gens se disent « Bon, notre projet thérapeutique est vain. » La mort est totalement évacuée des discussions scientifiques. Et elle est en même temps totalement banalisée sur le plan statistique. Je suis frappé de voir dans les statistiques 20% de morts, 30% de polynévrite, 28% de névrite optique rétrobulbaire. La mort est devenue un chiffre statistique parce que l'habitude de la mort est devenue un événement extérieur et est probablement inintériorisable. Elle n'est pas un événement essentiel. Alors, les soins palliatifs. Les soins palliatifs, dont je suis un militant depuis toujours, mais un militant critique. C'est-à-dire pas un militant qui considère que la mort ou celui qui va mourir doit faire l'objet d'un traitement psychologique. Je ne sais pas comment vous réagirez vous-même, comment je réagirais lors de ma propre mort, mais est-ce qu'on a forcément besoin d'être considéré comme un psychologiquement fragile. Chacun est différent. Mais de transformer l'anxiété en un assoupissement par les somnifères pose un problème. Je sais bien que les soins palliatifs sont très loin d'avoir une position réductrice et radicale de donner des hypnotiques ou des tranquillisants à des gens anxieux, mais je me pose la question de l'intérêt ou plutôt de la force de l'investissement affectif qu'une équipe de soins palliatifs va donner à quelqu'un qui va mourir et qui va s'impatienter de voir que cela dure. Parce que la seule façon de limiter cet investissement, c'est la mort. Au fond, la régulation de l'investissement affectif, qui est sans frein, c'est le soulagement de la mort, comme le soulagement de la mort dans une famille où l'agonie a duré, on dit, bon, maintenant, il est bien, et au fond, il y a l'espèce de paix qui survient quand il y a eu une longue agonie. Mais je me pose la question de savoir si, au fond, les équipes de soins palliatifs ne reviennent pas par l'extérieur en s'attribuant une sorte de médicalisation psychologique de la fin de vie. Et que ce processus, quelquefois fusionnel, et cette conversion de la fin de vie en un processus psychologique me pose question. Bon, ce serait un peu discourtois d'évacuer la question des soins palliatifs, pour lequel je répète que je suis un militant, non pas des services de soins palliatifs, parce que la ghettoisation de ceux qui vont mourir dans des services me paraît, en dehors de la formation que cela peut apporter, quelquefois ambiguë, mais je suis très frappé de voir que les soins palliatifs sont presque en régression en 2005 par rapport à ce qu'ils étaient en 2000. Nous n'avons pas de culture de soins palliatifs. Et nous sommes encore dans une culture, il n'y a quasiment rien sur le plan universitaire. Dans mon université, les soins palliatifs que j'ai enseignés pendant 10 ans, en 2004-2005, ont été retirés du cursus universitaire. On voit très très bien, ça veut dire que les soins palliatifs se considéraient comme les bénévoles, un petit peu de badigeonnage de somnifères ou de morphine, mais ce n'est pas une discipline qui a sa noblesse. Les deux derniers points que je voulais aborder avec vous, c'était très rapidement ce que j'appelle la deuxième mort, et puis la mort du médecin. La deuxième mort, c'était simplement une des expériences dans ma vie qui a été peut-être assez fondatrice quand j'étais jeune interne d'un de mes maîtres qui avait un cancer laryngé, vraiment en fin de vie. Et puis un soir, il asphyxie à l'hôpital Côte-Bernard. Et puis un interne d'un autre service qui est appelé par l'infirmière voit cet homme qui asphyxie et l'intube alors qu'il était dans les derniers râles de sa vie. Et donc, le lendemain, quand je l'ai vu et que j'ai pu parler avec lui, il m'a dit « J'étais mort et on me fait mourir une deuxième fois. » Et que cette mort, deuxième fois, est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur la violence d'un acte médical qui ne prend pas en compte cette intimité, cet apprentissage de la mort. Et je trouve que le cas du docteur Chaussois dont on a parlé me paraît s'apparenter parce que je ne sais pas ce qui a pu se passer dans l'intimité entre cette mère et cet adolescent Humbert, mais je pense qu'il avait accepté la mort et que si on l'avait réanimé, mourir une deuxième fois me paraîtrait là encore d'une violence et que je pense que le docteur Chaussois a fait ce que j'aurais fait et ce que un médecin digne de ce nom aurait fait. Pour terminer sur ce, pardonnez-moi, ce n'est pas d'une gaieté folle ce dont je vous parle, mais vous m'avez coincé, je ne peux pas faire un truc sur les trois baudets. Hein. La médecine est la négation de la mort. Le médecin est la mort. Enfin, le médecin est sa propre mort. Je me pose la question de savoir si au moment où le médecin va mourir, de la même façon que lorsque on se noie, semble-t-il, on revoit toute sa vie, est-ce qu'au moment où le médecin va mourir, il ne se remémore pas de façon extrêmement rapide, sauf s'il a fait un métier de médecine qui n'est pas confronté à la mort, est-ce qu'il ne se remémore pas de façon blessante au fond, ces indifférences passées? Est-ce qu'il ne se remémore pas en quelques tierces secondes comment une nuit de garde il ne s'est pas déplacé parce qu'il était avec des amis en train de chanter dans une salle de garde? Comment il a préféré à un moment donné son confort, ses vacances, sa vie, c'est tellement humain, et que la mort unique de chacun ne lui revient pas en mémoire. Et je me disais que peut-être l'épreuve pour qu'un étudiant en médecine devienne médecin, c'est la mort de ses parents. Tant qu'un étudiant en médecine a ses parents, il a l'impression qu'il est protégé par une sorte de filiation biologique qui le met en deuxième ligne. Le jour où ses parents meurent, ou peut-être les gens qu'il aime, si ce ne sont pas ses parents, à ce moment-là, il est confronté à sa propre mort, c'est un lieu commun, mais cette perception directe de la mort de ceux qu'il précède ou de ceux qu'il aime, peut-être lui fait penser à la mort de l'autre. Ce que je crois, c'est que, le médecin demande aux malades, de plus en plus avec la loi de 2002, avec cette vision un peu angélique des droits des malades, cette transparence de l'information, qui aboutit en boomerang à dire aux malades « Soyez courageux, soyez lucides, vous avez un cancer bronchique à petites cellules dont le pronostic à cause des métastases cérébrales ou des métastases osseuses, vous qui me demandez pour combien de temps vous avez à vivre, la réponse peut être quelquefois une réponse impossible dans la violence, mais ça peut être une réponse donnée dans le temps, chronologique. » Et qu'on est frappé de voir que l'on va demander au malade le refus, enfin on va lui demander d'être confronté à l'indicible dans une société qui a un refus culturel. Et que cet écart entre le malade qui doit assumer avec courage et avec honneur sa mort face à une maladie terminale dans une société où la mort est sans cesse évacuée. Donc je me pose la question, je terminerai par une note personnelle, entre le moment où on m'a posé ce sujet, la médecine et la négation de la mort, j'ai eu personnellement une maladie qui m'a confronté à la mort. Et je n'ai pas tiré de cette expérience une philosophie, une métaphysique, un enrichissement, mais comme n'importe quel des êtres humains, j'ai été en situation d'angoisse, de perdition, et que tous les mécanismes de défense que les médecins peuvent établir sont à ce moment-là fragilisés, et on s'aperçoit qu'on est dans la même communauté humaine, que l'on soit médecin ou qu'on ne le soit pas, mais là encore je rentre dans des lieux communs. Pour terminer, ce qui me paraît peut-être le plus important pour les étudiants en médecine, et ce que j'ai envie de transmettre comme message, c'est que le discours actuel de soins palliatifs, dans cette sollicitude relationnelle affichée, revendiquée, n'efface pas la disparition de fait de la place symbolique de la mort dans notre société. Alors, je pense que les orateurs précédents vous ont parlé des très beaux concepts d'Ariès sur la mort de nous, la mort de soi, la mort de toi, la mort de l'autre, qui sont devenus maintenant des classiques du rapport à la mort. Mais je pense que la médecine a tout intérêt, non seulement à ne pas nier la mort, mais à la réintégrer dans sa dimension en même temps très forte, en même temps très symbolique, comme si la médecine avait à dire quelque chose à la société, à lui réenseigner l'importance des rites, l'importance de se sentir tous participants à la même communauté humaine. Au fond, peut-être que accueillir la mort pour les médecins, accueillir leur propre mort, avec cet effort peut-être pédagogique impossible, puisque j'en témoigne de cette difficulté, mais au moins considérer que celui qui va mourir est plus proche de nous que le malade qui va guérir. Je vous remercie.